On commence, on est ce soir, on est dans un autre mystère. On avait vu le mystère de la foi. On a vu aussi le mystère de l'Évangile, le mystère des Juifs et des Gentils dans un corps, former un seul corps. On avait fini ça la semaine passée. Cette semaine, on va être dans le mystère de l'Église ou l'épouse, le mystère de l'épouse. Puis après ça, il va rester le mystère des sept étoiles et des sept chandeliers, le mystère de la piété. Ça, c'est dans les mystères au point de vue doctrinal. Puis dans les mystères qui sont au point de vue des dispensations, on a le mystère du royaume des cieux, le mystère de l'aveuglement d'Israël, le mystère de l'enlèvement de l'Église, le mystère de sa volonté, le mystère de Dieu. Puis dévotionnel, bien, on a le mystère de Christ qui habite en nous. Puis les deux mystères diaboliques, eh bien, il y a le mystère de l'iniquité et le mystère de la grande Babylone. Donc, on va commencer ce soir avec Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33. Donc, on va aller pour le mystère de l'épouse. Encore une fois, le mystère, c'est des choses que, pas des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est des choses qu'on peut comprendre quand elles nous sont expliquées, quand elles nous sont révélées. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ces mystères-là nous ont été révélés, ils étaient cachés auparavant, même si on peut les voir maintenant qu'on les comprend dans le Nouveau Testament, on peut les voir dans l'Ancien, on peut voir les images, mais il fallait qu'ils nous soient révélés pour qu'on puisse les comprendre. Et c'est ce que le Seigneur a voulu, dans le sens que le Seigneur est un Dieu qui parle, qui communique avec nous, qui veut qu'on connaisse son plan. Donc, il nous l'a révélé. Fait qu'avant d'aller plus loin, on va lire dans Éphésiens au chapitre 5, les versets 22 à jusqu'à 30, jusqu'à 31, à 33, je m'excuse. Donc, Éphésiens 5, 22, Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Puis là, on a notre mot qu'on cherche dans notre passage, ce mystère. Donc, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, on va demander au Seigneur de nous aider dans notre étude. Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce soir encore une fois pour apprendre de toi. Notre Dieu, on veut que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. On veut aussi recevoir ta parole telle qu'elle est, sans faille. Elle est toujours exacte et elle est éternelle. On te remercie, Seigneur, parce qu'elle nous révèle ton plan pour nous. Puis on veut te louer, t'adorer. Merci pour ton esprit aussi qui nous aide dans ta parole pour qu'on puisse bien la comprendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. OK, donc on est, comme on a dit ici, on est dans le mystère de l'épouse, de la relation de Christ avec son épouse et on va avancer là-dedans. Donc ici, c'est la relation de mariage qui est en vue. Quand Paul donne son enseignement sur la relation de mariage entre la femme et son mari, entre le mari et sa femme. Mais la relation de mariage est une représentation de la relation de Christ avec son Église. Et non le contraire. Des fois, on est porté à dire la relation de Christ et son Église est comme la relation de mariage entre un homme et une femme. Mais c'est plutôt le contraire. C'est la relation de mariage est comme la relation de Christ avec son Église, parce que dans la pensée de Dieu, la relation de Christ et son Église était en premier. Puis, ensuite de ça, c'est pour ça qu'il a fait cette relation-là, qui est une belle relation. On sait aujourd'hui que dans le monde, c'est une relation qui est bafouée. On fait des farces, on se moque de cette relation-là. Mais c'est une belle relation quand on la traite comme elle doit être traitée, comme Dieu nous l'a donnée. Je me souviens une fois au travail, il y avait un gars qui, sur la construction, ben, les gars, ils veulent paraître tough. Puis il disait que, il parlait de quelqu'un qui un jeune qui allait se marier, puis il dit, il devrait pas avoir le droit de se marier avant la retraite. Puis il parlait, il disait des mauvaises choses par rapport au mariage. J'ai dit, je sais pas si tu es marié, là, mais on dirait que si tu es marié, t'as pas vraiment une bonne idée de la relation de mariage. Ben, ça se peut pas, quelqu'un qui est marié puis qui est heureux, ben, j'ai dit, moi, j'en suis un. J'ai dit, moi, je suis marié, puis je suis heureux d'être marié parce que j'ai dit, ça me donne le goût de travailler, de prendre soin de ma famille. Puis j'ai dit, c'est une belle relation. Ben, il dit, c'est des farces qu'on fait. Ben, j'ai dit, c'est pas des belles farces. Parce que la relation de mariage, c'est une belle relation quand elle est traitée de la façon que Dieu l'a instituée. C'est son idée à lui. Il l'a instituée pour nous aider à comprendre la relation que Christ a avec son Église, avec son épouse. Donc, c'est vraiment merveilleux. Mais surtout quand on voit la place que cette relation-là a dans la parole de Dieu, là, ben, la parole de Dieu commence, l'histoire de l'humanité commence avec un mariage. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, on voit qu'il y a un mariage. C'est là que Dieu, dans le jardin d'Éden, avant que le péché viennent sur la terre avec l'homme tombe dans le péché, Dieu avait institué la relation de mariage. On sait que dans la religion même, on a dit des fois que la relation que Adam avait eue avec sa femme, c'était ça le péché. Mais c'est pas cette relation-là a été instituée avant le péché. Puis Dieu avait donné cette relation-là de mariage entre Adam et sa femme avant que le péché vienne. Donc, c'est pas ça qui est le péché. Puis, c'est pour ça que dans la religion, on a vu cette relation-là, des fois comme malsaine puis impure, mais c'est une relation qui est pure, qui est belle, qui est sainte, parce que c'est Dieu qui l'a fait pour nous faire comprendre. Vous savez, il y a bien des choses qui ont été faites pour nous aider à comprendre des vérités spirituelles. C'est important, mais au début, dans la parole de Dieu, ça commence avec un mariage. Dans Genèse 2, puis à la fin de l'Écriture, dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, on voit que ça termine avec un mariage aussi. Donc, on voit, puis entre les deux, on a toute l'histoire de l'humanité, on a comment toute l'histoire de comment Dieu a pourvu une épouse pour son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Genèse 2, c'est Adam et Ève, mais dans l'Apocalypse, là, c'est Christ qui est uni à son épouse. Donc, on sait comment Dieu a pourvu une épouse pour son fils. Mais c'est pour ça que ce mystère-là a une place prédominante dans l'Écriture. C'est vraiment dans la pensée de Dieu, ça avait une place prédominante. Donc, au début de l'Écriture, dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, après avoir créé l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, dans la Genèse 2, ici, où on voit le mariage, Dieu, ça commence avec le fait que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est quelque chose de bien que Dieu va faire pour l'homme. À la fin de l'Écriture, l'époux est uni à son épouse. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est uni à son épouse. Puis, cette union-là de Christ avec son épouse, ça représente la félicité. Ça représente l'état éternel, l'état un état vraiment merveilleux, c'est l'espoir d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Parce que le Seigneur dit dans Jean, au chapitre 14 et au verset 3, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, c'est le but de Dieu, c'est que ses rachetés soient avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour former cette épouse-là, pour former une union éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis dans Éphésiens 5, 32, comme on a lu, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, c'est un mystère qui a une grande place dans la pensée de Dieu parce qu'il représente quelque chose pour nous de comprendre quelle est la relation de Christ avec son épouse. C'est pour ça que Dieu est sévère par rapport le fait de ne pas traiter cette relation-là comme elle doit être traitée dans les instructions qui nous sont données. Cette relation-là doit être traitée avec un grand respect, puis c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que Dieu aussi et sévère quant à l'immoralité. L'immoralité, c'est un grand péché. Pourquoi? Parce que ça met un blâme, ça met un opprobre sur la relation que ça représente, la relation de Christ avec son Église. C'est pour ça que dans Hébreux 13, au verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, il y a un jugement prononcé ici sur ceux qui ne traiteront pas cette relation-là avec toute la dignité qu'on lui doit. Donc, toute perversion dans le mariage, là, c'est une insulte à la relation de Christ et son Église. Puis aujourd'hui, on pense qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec cette relation-là, puis la traiter comme on veut, faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment, c'est l'idée de Dieu. Puis Dieu veut que cette relation-là soit traitée avec le plus grand respect. C'est pour ça que quand on a, comme aujourd'hui, des mariages de personnes de même sexe ou même le divorce, l'union libre, les rôles non respectés, toutes ces choses-là mettent un opprobre sur la relation de Christ avec son Église. Mais aussi dans les rôles distincts. Parce qu'aujourd'hui, on nie ça dans la société dans laquelle on vit. Puis on ne doit pas céder à la pression de la culture ou de l'époque dans laquelle on vit. Nous, on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens, des fois, j'avais entendu quelqu'un qui me disait une fois, elle disait, on va être jugé à la lumière de l'époque dans laquelle on a vécu. Puis j'ai dit, moi, j'ai jamais vu ça dans l'Écriture. La parole de Dieu demeure le standard à travers toutes les âges, à travers tous les siècles. Et c'est pas à nous de changer ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Puis on doit respecter la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans la société? Eh bien, ces gens-là auront à rendre compte à Dieu à cause de ces choses-là. Mais les rôles, dans les rôles, c'est important qu'on garde les rôles distincts. La société aujourd'hui nous dit qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Eh bien, c'est pas difficile à prouver que c'est une erreur de dire ça, parce qu'il y a vraiment une distinction, il y a une différence entre un homme et une femme qu'on ne peut pas nier. Puis c'est Dieu qui l'a fait ainsi, mais c'est tout dans la rébellion contre Dieu qu'on commence à questionner qu'est-ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a créé mâle et femelle, puis nous, on n'a rien à dire là-dedans. C'est lui qui l'a fait ainsi, puis c'est merveilleux quand on se soumet, quand on reconnaît l'autorité de Dieu dans ces choses-là, puis qu'on s'y soumet, ben c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on voit que Dieu a créé l'homme et la femme avec des rôles distincts. Il y a des rôles qui sont. Il y a un rôle qui est donné à la femme, il y a un rôle qui est donné à l'homme. Puis, ce n'est pas une question d'être inférieur ou supérieur, c'est juste une question d'ordre que Dieu nous a donné, d'avoir un ordre dans cette relation-là. Mais on voit qu'il nous parle ici dans Éphésiens 5, 22, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc, la femme est dans une relation de soumission. Mais. Ça doit être représenté aussi dans le foyer, ça doit être représenté dans l'assemblée, dans la société aussi. Puis ce n'est pas une question d'être inférieur ou d'être abusé. On sait que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Le Seigneur Jésus a pris un rôle de soumission à son Père, puis ça ne le rendait pas inférieur, mais c'était pour l'ordre qu'on voit. Parce que même dans la Trinité, vous savez, il y a un ordre avec des rôles distincts, même si les trois personnes de la Trinité sont égales, mais ils sont distincts dans les rôles. Et ils ont le fait que le Seigneur Jésus se soit soumis à son Père, ça ne le rend pas inférieur, mais c'est un ordre établi. Puis le Saint-Esprit, qui lui, ne parle pas de lui-même, mais qui exalte le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est des rôles qui sont donnés. Mais ce n'est, comme j'ai dit, c'est pas d'être inférieur ou d'être abusé. Mais c'est le fait que la femme ne doit pas prendre les devants ou ne doit pas conduire. Parce que la soumission, c'est de suivre. Puis le Seigneur avait dit, quand il a créé l'homme, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, sur le même niveau, mais c'est une aide. L'homme a le rôle, lui, de conduire, tandis que la femme a le rôle de se soumettre. pour avancer. Puis on va voir un petit peu en avançant. On va aller dans 1 Timothée 2. Dans 1 Timothée 2, versets 11 à 13, c'est dit, 1 Timothée 2, versets 11 à 13, il nous dit ici, que la femme écoute l'instruction en silence, ça c'est dans l'assemblée, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc ici, le Seigneur, il nous dit que la femme doit garder le silence dans l'assemblée. C'est de ne pas prendre l'autorité sur l'homme, c'est de ne pas conduire l'assemblée. C'est l'homme qui, dans son rôle, doit accomplir ce rôle-là. C'est sûr que de dire Amen ou de chanter dans l'assemblée, c'est pas conduire, mais de choisir les cantiques ou d'enseigner ou de conduire dans l'adoration ou ces choses-là, ça, c'est conduire. C'est pas le rôle que Dieu a donné à la femme. Dieu a donné à la femme le rôle de se soumettre et d'être dans le silence. Mais le mot silence qu'on voit ici dans 1 Timothée 2, 11-13, Thayer, lui, il nous dit que ça veut dire tranquillité, puis il nous dit que c'est la description de la vie de quelqu'un qui reste à la maison faisant son propre travail et ne se mêle pas officieusement dans les affaires des autres. Donc, ce n'est pas un rôle de conduire. Mais c'est plutôt de supporter. Puis aussi, ça veut dire, le mot veut dire silence. Dans Acte 22, 2, on a le même mot qu'on retrouve ici. Puis dans Acte 22, 2, il dit, lorsqu'ils entendirent, c'est Paul qui parlait sur les degrés dans l'aréopage. Puis quand Paul parlait sur les degrés à l'aréopage, il a commencé à s'adresser à la foule, puis il leur parlait en langue hébraïque. Puis il est dit ici, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Puis c'est le même mot qui est dans 1 Timothée 2, 11 et 12, là, ici. Là. Dans 2 Timothée 2, 11, c'est le même mot. Donc, ils redoublèrent de silence. On voit aussi dans 1 Corinthiens 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Toujours, on lit ces choses-là toujours en pensant aux des rôles qui représentent la relation de Christ avec son épouse. Parce que nous, on est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit conduire. C'est lui qui doit. Nous, on doit suivre ce que le Seigneur Jésus nous conduit. Dans 1 Corinthiens 14, 34, quand il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, le mot se taire, ça veut dire, c'est un mot qui veut dire garder le silence, se tenir en paix, être tenu en silence ou en retrait. Quand il dit aussi qu'il ne lui est pas permis de parler, le mot parler ici, c'est l'aléo qui veut dire utiliser la voix ou émettre un son. Ça veut dire parler, ça veut dire utiliser des mots pour déclarer sa pensée ou son idée. Ça, c'est ce que Thayer nous donne comme définition de ces mots-là. Et même, on voit qu'il dit que si elle veut s'instruire de quelque chose à la maison, qu'elle demande à son mari à la maison. Donc, même de demander des questions, c'est de demander à son mari à la maison. La soumission est représentée, là, on a parlé dans l'assemblée. Mais à la maison, c'est que la femme ne prenne pas les devants dans la relation de couple. C'est de ne pas prendre les devants, mais d'appuyer puis d'aider. Et le Seigneur avait dit quand il l'a créé, qu'il lui ferait une aide semblable à lui. Donc, c'est de laisser le mari conduire dans les décisions. Puis, c'est important ces choses-là parce que ça représente quelque chose pour les enfants, puis pour la société aussi, dans cette relation-là, qui représente la relation du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Ça ne veut pas dire que si le mari conduit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une consultation entre le mari et la femme, qu'on peut discuter des choses, mais dans le fonctionnement, eh bien, c'est le mari qui doit conduire, la femme doit se soumettre ou appuyer et aider dans la situation. C'est sûr que le mari, on va en venir au mari ensuite, le mari, lui, il doit toujours penser à sa femme avant lui dans toutes les décisions qu'il va faire. C'est sûr qu'à cause de l'abus qu'on a vu dans la société auparavant, quand on a mis l'emphase sur le fait que l'homme est l'autorité, puis la femme doit être soumise, eh bien, quand on a mis l'emphase sur l'autorité de l'homme, puis on a pas, okay. Fait que ça a fait un dérèglement, puis les femmes se sont rebellées, hein, parce qu'ils n'étaient pas bien traités dans cette relation-là, parce que l'homme ne faisait pas sa relation comme il devait faire. Il devait penser à sa femme avant lui-même, comme le Seigneur Jésus, il nous a dit que lui s'est livré pour son épouse. Donc, c'est important ça. Mais quand on fonctionne, puis pourquoi quand ça fonctionne comme ça dans le foyer? Ben, vous savez, le foyer, c'est l'endroit, le premier endroit où on apprend les choses dans la vie. C'est là qu'on apprend à fonctionner, que ce soit dans la société ou que ce soit dans l'assemblée. Notre première école, c'est dans le foyer. Parce qu'on est dans un foyer avec on a des enfants avec un père, une mère. Et c'est là qu'on apprend. Vous savez, un enfant, il apprend beaucoup par l'exemple. Puis par l'exemple des parents qui fonctionnent dans l'amour, dans la soumission, eh bien, qu'est-ce qui arrive? L'enfant apprend à ce modèle-là. Puis c'est un apprentissage qui va lui servir tout au long de sa vie. On sait que quelqu'un qui n'a pas appris le principe de l'autorité soumission, il va avoir des problèmes toute sa vie. Les prisons sont remplies de gens qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Puis l'autorité, on sait que l'autorité est de Dieu, puis elle a été instituée par Dieu. Lui, l'autorité finale au-dessus de tout. Les autres autorités sont des autorités déléguées, que Dieu a déléguées. Mais dans la maison, on apprend à être ce principe-là qui va nous servir tout au long de notre vie, de savoir se soumettre à l'autorité qui est au-dessus de nous. On a toujours une autorité au-dessus de nous. Eh bien, on doit se soumettre à cette autorité-là. Et quand on se soumet à cette autorité-là, eh bien, ça fait de l'harmonie. Puis, ça fait une vie heureuse. C'est important. C'est pour ça que aujourd'hui, avec la, c'est à cause de la culture qu'on vit maintenant avec le féminisme qui a amené une révolution dans cette relation-là. On a vraiment renversé ces rôles-là dans le féminisme. Puis, c'est pas étonnant qu'on a une génération maintenant de gens qui sont insoumis. Puis la rébellion qui existe aujourd'hui dans le monde, on veut pas se soumettre à personne. Mais si on avait appris à la maison, puis ceux qui ont pu avoir ce privilège-là d'apprendre à la maison le fonctionnement, le beau fonctionnement de ce principe-là, autorité-soumission, avec celui qui est en autorité, délégué par le Seigneur, eh bien, qui fait un bon chef, qui va aimer, qui va prendre soin, ne sera pas égoïste, et avec la femme qui s'est soumise à ça, les enfants apprennent aussi à se soumettre, pas juste à leur père, mais à leur mère aussi, en apprenant ce principe-là d'autorité-soumission. Donc, ce principe-là, on l'apprend au foyer de notre tendre enfance, puis c'est là qu'on est vraiment capable d'apprentissage au moment. C'est notre meilleur moment d'apprentissage, c'est quand on est tout petit, puis qu'on grandit. Puis quand on apprend ça, bien, ça va nous servir tout au long de notre vie, parce que ce même principe-là qu'on a appris dans le foyer, on va le retrouver dans l'assemblée, on va le retrouver aussi dans la société. C'est le même principe qui est l'autorité-soumission. Mais maintenant, on en vient à l'homme dans cette relation-là. Dans Éphésiens 5 et versets 25 à 33, il nous dit maintenant si on a, des fois, on s'arrête à l'enseignement qui est pour la femme. Mais quand on regarde l'enseignement pour l'homme, c'est une plus grande responsabilité pour l'homme. Dieu demande encore plus à l'homme. Il dit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Puis dans la conclusion, il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voyez-vous, l'instruction qui est donnée ici à l'homme, c'est une grande responsabilité. Quelqu'un qui est égoïste, qui pense à lui-même, ben, il ne réussira pas dans cette responsabilité-là qui lui est donnée par Dieu. Dieu lui a donné une autorité déléguée. En étant en autorité, il est sous l'autorité du Seigneur. Puis le Seigneur a donné des instructions. Puis s'il veut que ça fonctionne bien, il va falloir qu'il écoute le Seigneur dans ces choses-là. Donc, on parle d'aimer, là. Aimer, c'est un grand mot. Puis aujourd'hui, aimer, c'est un peu comme, selon la culture encore dans laquelle on vit, là, les gens tombent en amour, puis après ça, ils n'aiment plus. Mais ici, là, c'est un commandement d'aimer. Et quand il dit ici, Marie, que chacun aime sa femme, c'est un commandement, ça, c'est pas. Mais là, si tu tombes en amour avec elle, non. Tomber en amour, ça, c'est Hollywood. Mais quand on prend l'engagement, quand un homme prend l'engagement d'aimer sa femme comme Christ a aimé son Église, eh bien, il doit respecter cet engagement-là. Puis, c'est comme quelqu'un, à un moment donné, il m'avait dit, je ne l'aime plus. Ben, j'ai dit ça, là. C'est tragique, là. Mais la réponse à ça, là, aime-la. Christ a dit de aimer tu lui as promis ton amour, tu lui as promis de l'aimer, d'en prendre soin, de la chérir, comme Christ a pris prend soin de son épouse, ben ça, c'est ça qu'on doit faire. Puis, en même temps, on voit que Christ, lui, a fait de son épouse, là, il a fait une épouse qui est digne de lui. On voit tout ce qui est investi ici, là, il s'est livré lui-même pour elle, il la sanctifie, il la lave par l'eau de la parole, puis un jour, il va la faire paraître devant lui, une église glorieuse et sans tache. Donc, c'est lui qui a fait le travail pour cette église-là. C'est certain que qu'est-ce qu'on va être dans l'éternité, non? Ben, ça va être exactement ce que le Seigneur a fait de nous. Puis c'est une grande. Il a fait tout un travail pour nous. Vous savez, quand il a créé l'univers, il a juste dit et les choses étaient. Mais pour avoir son épouse, pour faire de son épouse ce qu'il veut qu'elle soit pour lui, pour l'éternité, ben, il est venu ici sur la terre, il s'est humilié, il s'est donné lui-même, il a souffert sur la croix. On sait qu'on pense aux souffrances physiques, c'est une chose, mais les plus grandes souffrances du Seigneur Jésus, c'est quand il a fait face à la colère divine à cause de notre péché. Il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Puis ce qu'on va être, c'est tout à cause de cela. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on voit que l'agneau était au milieu du trône comme un agneau immolé. On va toujours garder en mémoire pendant l'éternité l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite en s'offrant lui-même sur la croix du calvaire. Monsieur Ironside, il y avait un homme qui venait de. Il avait sa jeune épouse, ça faisait pas longtemps qu'il était marié, mais il aimait tellement son épouse qu'il avait peur de faire de l'idolâtrie. Puis il était venu vers Monsieur Ironside, puis il dit, Monsieur Ironside, il dit, j'ai peur de trop aimer mon épouse. Puis Monsieur Ironside, il a dit, il dit, l'aimes-tu autant que Christ a aimé son épouse, puis son Église, puis s'est livré lui-même pour elle? Ben, il dit, non, je ne peux pas dire que je l'aime autant que ça. Ben, il dit, tu ne l'aimes pas encore assez. Donc, c'est important, c'est un commandement que le Seigneur nous donne ici. Puis voyez-vous ici, le Seigneur, dans le passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré pour elle, pour son salut. Parce que si ce n'était pas du fait que le Seigneur s'était livré pour nous, on ne serait pas son épouse. On n'aurait pas été racheté de nos péchés. On n'aurait jamais pu être sauvé. Notre part serait l'étang de feu pour l'éternité, le jugement éternel à cause de notre péché. Mais c'est tout à cause, ça a commencé avec son œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour notre salut. Ensuite de ça, dans le présent, maintenant, il la sanctifie, puis il la purifie, puis il la lave. Donc, il est en train de la transformer par l'eau de la parole. Le Seigneur Jésus, il agit avec nous. Toutes les circonstances qu'on vit dans nos vies, c'est que le Seigneur est en train de nous transformer. Il nous fait passer. Jamais qu'il nous donne des épreuves juste pour nous voir souffrir. Mais à travers ces choses-là, le Seigneur nous transforme et nous modèle à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est ça, c'est une transformation. Puis on sait que cette transformation-là, qui est progressive, quand le Seigneur Jésus va venir nous prendre pour nous emmener avec lui, il va la terminer. En un instant, en un clin d'œil, on va être transformé. On va revêtir l'immortalité, on va revêtir l'incorruptibilité. Puis dans le futur, selon ici, qu'est-ce qu'il dit, afin de se la présenter, comme il dit ici, attendez un petit peu. Ouais, dans le verset 27, il dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voyez-vous comment est-ce qu'elle va être belle, cette église-là? Elle va être vraiment digne de lui, parce qu'à cause de ce qu'il a fait, il va se la présenter. Ça, c'est dans le futur. Ça, c'est la consommation dans la relation. On va être unis à lui pour l'éternité. Mais dans l'assemblée, si on vient dans l'assemblée, on a vu le rôle de la femme dans l'assemblée, c'est de ne pas conduire, c'est de ne pas prendre la parole dans l'assemblée, c'est de supporter et de suivre la direction que l'homme a dans l'assemblée, parce qu'on est des représentants dans l'assemblée. Christ est la tête, puis l'Église, c'est l'Église et l'épouse qui se soumet à la tête. Vous savez, quand il parle dans l'Apocalypse, il dit, tu laisses la Jézabel enseigner, ben, c'est ça qui arrive, c'est que c'est l'Église. Jézabel représente l'Église, la femme représente l'Église. Puis c'est ça qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Hein. On a grandi avec, on parlait des commandements de Dieu, puis des commandements de l'Église. Donc l'Église a usurpé l'autorité de sa tête. C'est ça qui est le problème dans l'Église l'Église des hommes. C'est quand les hommes décident des choses à la place de la tête, au lieu de se soumettre à la tête. Donc, c'est pour ça que dans notre relation, dans l'Église, on montre que l'Église est soumise à la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas à nous de décider, c'est au Seigneur Jésus. Et c'est à nous d'obéir au Seigneur Jésus. Mais dans l'assemblée, l'homme qui a reçu l'autorité de conduire dans l'assemblée sous l'autorité du Seigneur Jésus qui en est la tête, eh bien, l'homme ne doit pas être un spectateur. L'homme, il doit vraiment sa présence dans les réunions. C'est important qu'on soit là pour conduire l'assemblée. Si le Seigneur a donné à l'homme de conduire dans l'assemblée, mais c'est important. C'est important aussi que les femmes soient là, mais c'est important que les hommes soient là. Vous savez, on arrive des fois dans des situations où il semble que l'homme, il va avec sa femme à l'église, parce que c'est les femmes qui conduisent, puis lui, il suit. Hein, il va là, puis il s'assied, puis il parle pas. Mais il faut faire attention à ça aussi. Si la femme, elle, elle a un rôle dans la soumission de ne pas conduire, ben l'homme, lui, faut qu'il conduise, parce que le Seigneur nous a donner cet ordre-là. Donc, il faut être présent, premièrement, mais pas seulement juste présent sur la chaise, mais avec un désir d'exercer le ministère que le Seigneur nous a donné d'exercer, le rôle que le Seigneur nous a donné d'exercer. Donc, on doit toujours être prêt. On doit toujours être prêt. Pourquoi? Bien, pour conduire dans l'assemblée, pour édifier, pour encourager, pour corriger, pour instruire. C'est le rôle de l'homme que Dieu a donné à l'homme. Donc, il faut être prêt. Vous savez, c'est triste de voir des fois dans des assemblées des hommes qui agissent comme des femmes, qui ne prennent pas leur rôle au sérieux, qui ne se sont pas préparés pour pouvoir accomplir le rôle que Dieu lui a donné. Et c'est triste pour nos sœurs quand les hommes font pas leur rôle. C'est vraiment triste parce que eux, ils veulent se soumettre, mais l'homme, lui, il doit prendre son rôle au sérieux. C'est important, ça. C'est pour ça que dans le verset 33, là, si ces principes-là, comme dans le verset 33, il dit, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, eh bien, si on ne respecte pas ces principes-là, ben, ce n'est pas étonnant qu'on ait de la rébellion autour de nous, là. Puis comme on dit, on le voit dans les trois relations, l'époux, l'épouse, puis dans la société, aussi dans l'Église. Donc, c'est important. Mais quand on regarde les types, on va dans la doctrine, On va voir dans l'Ancien Testament, puis on voit cette doctrine-là qui est imagée ou qui est représentée dans des situations dans l'Ancien Testament. Donc, c'est important de comprendre que la doctrine, les types, là, c'est là qu'on va dans les types. Les types n'énoncent pas la doctrine. La doctrine est énoncée dans le Nouveau Testament, mais la doctrine est imagée ou expliquée dans l'Ancien Testament. Puis c'est pour ça que dans les types, il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, il dit, jusqu'où on peut aller dans les types? Ben, j'ai dit, on peut aller jusqu'où le Nouveau Testament nous permet d'aller. Fait qu'il faut jamais utiliser les types ou les images de l'Ancien Testament pour énoncer la doctrine, parce que là, on peut faire dire n'importe quoi dans les types. Mais quand on a la doctrine de bien établie dans le Nouveau Testament, ensuite de ça, on peut voir dans l'Ancien Testament, on peut voir l'image, des choses qui vont nous aider à comprendre ce que le Seigneur a voulu qu'on comprenne dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous savez, le Seigneur a fait tellement de choses pour nous aider à comprendre. Hein? Quand le Seigneur parlait, là, il disait, le royaume des cieux est comme un semeur sorti pour semer. Donc, le Seigneur utilisait des situations de la création, des situations des choses qu'on vit pour nous aider à comprendre les réalités spirituelles. Donc, tout est fait, toutes les choses physiques sont faites pour expliquer, pour nous aider à comprendre les situations spirituelles que le Seigneur a fait de lui-même. Mais dans l'Ancien Testament, on va voir, il y a trois relations de mariage qui nous sont présentées. Puis, on voit ça quand on arrive au chiffre 3, là, on pense à Trinité. Hein. Mais c'est toujours dans tout ce qu'on voit, dans l'œuvre que Dieu a fait avec nous, les humains, bien, il est toujours en parfaite harmonie. C'est un Dieu trinitaire. Il y a des gens qui nous disent, bien, la Trinité, ça n'existe pas, il n'y a pas trois dieux. Non, il y a un seul Dieu, mais qui est manifesté dans trois personnes distinctes, avec des rôles distincts. Puis Dieu, les trois personnes de la Trinité sont pleinement en harmonie et impliquées dans la rédemption, le plan de rédemption que Dieu a pourvu. Donc, ils sont en parfaite harmonie, sont dans les rôles qu'ils doivent jouer chacun. Puis dans ces trois relations de mariage-là qu'on va voir dans l'Ancien Testament, on va voir que le Père est impliqué, le Fils est impliqué, le Saint-Esprit est impliqué aussi. Première relation qu'on va voir dans l'Ancien Testament, on ne les verra peut-être pas toutes ce soir, mais la première, c'est Adam et Ève. Hein, c'est sûr que ça, c'est le prototype. C'est là que le mariage a été institué de Dieu. Puis, des fois, il y a des gens qui ont de la misère à se trouver quelqu'un avec qui se marier. Un homme a de la misère à trouver une femme. Eh bien, imaginez-vous Adam. Il n'y en avait pas. Mais c'est Dieu qui lui a pourvu une femme. Donc, c'est le Père ici dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Adam et Ève, c'est la part du Père qui pourvoit une épouse pour cet homme-là qu'il a créé. Donc, c'est la part du Père. Il va pourvoir une épouse. Mais dans l'image de ça, bien, on voit que le Père a voulu pourvoir une épouse pour son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On sait que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été créé. Il est Dieu manifesté dans la chair. Il était avec son Père de toute éternité. Il est le Fils éternel de Dieu. Mais Dieu voulant pourvoir une épouse pour son Fils, eh bien, c'est de là que vient l'idée du plan de la rédemption de l'homme sur la terre. Dieu a créé l'homme et il a donné la rédemption après que l'homme a péché pour pouvoir rassembler une épouse pour son Fils. On verra en regardant dans Genèse 2 quand on va regarder ça ensemble. Dans Genèse 24, on a une autre relation. Le chapitre 24 de la Genèse, c'est tellement un beau chapitre. C'est un long chapitre, très long chapitre. Beaucoup de détails de données, beaucoup de belles images pour nous représenter quoi? Mais nous représenter l'œuvre du Saint-Esprit pour chercher une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac. Donc ça, c'est la part du Saint-Esprit qui est envoyée par Abraham, qui avait envoyé son serviteur, pour aller chercher une épouse pour son fils. Donc ça, c'est la part du Saint-Esprit qui pour chercher l'épouse pour le fils. Puis on la voit, vous savez, quand on est dans le livre des Actes, là, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre et qui l'Évangile est prêché. Les gens sont sauvés, sont rassemblés pour former un seul corps. pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. On verra en avançant dans Genèse 24 aussi. Ensuite de ça, l'autre relation de mariage qu'on va voir dans la Genèse, c'est dans Genèse 41, verset 45, c'est Joseph et Asnath. Joseph qui était rejeté par ses frères, qui était vendu, qui est allé en Égypte, mais que Dieu a utilisé pour sauver à cause de la famine, tout ça. Bien, ça, c'est la part du fils qui prend possession de son épouse, Asnath, qui lui a été donnée par Pharaon durant le rejet. Il a son épouse durant le fait qu'il est encore rejeté de ses frères. Il est uni à son épouse avant que ses frères se réconcilient à lui. Donc, on voit encore là une image de ce qui, pendant que le peuple d'Israël a rejeté son Messie, le Seigneur Jésus, il rassemble son épouse. Donc, c'est la part du fils de prendre possession de son épouse durant le rejet de ses frères et de s'unir à elle avant de se réconcilier avec ses frères. Voyez-vous toutes les images qu'on voit là-dedans? Puis c'est là, c'est quand il a été élevé, là, il a été élevé sur le trône. Puis il lui a été donné une femme. Comme j'ai dit tantôt, quand on voit dans les types dans l'Écriture, puis il y a beaucoup de types dans l'Écriture, c'est vraiment une belle étude, les types. Mais il faut toujours faire attention, comme j'ai dit tantôt, faut pas que les types, on fasse dicter la doctrine par les types. Mais il faut vraiment l'illustrer. Quand on l'a bien compris, la doctrine, dans le Nouveau Testament, maintenant, en lisant, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ben, nous autres, l'Ancien Testament, c'est plus pour nous autres. Oui, c'est pour nous autres. C'est pour nous autres parce que ça nous aide à comprendre les vérités qui nous ont été révélées. Comme on voit les mystères qui nous sont révélés dans le Nouveau Testament. Mais maintenant qu'on les voit dans le Nouveau Testament, on peut aller puis faire parler les types en accord avec le Nouveau Testament. Puis là, ça nous aide à comprendre. Vous savez, le peuple d'Israël, eux, ils ont eu l'Ancien Testament pour le faire comprendre. C'était un peuple qui était illettré, qui était des esclaves en Égypte. Puis le Seigneur a utilisé des images pour leur faire comprendre des choses. Tout le système de l'Ancien Testament, la loi et toutes ces choses-là, on a connu la sainteté de Dieu. On a connu le moyen de s'approcher de Dieu à cause de notre péché. Il fallait un sacrifice. Toutes ces choses-là, eux, ils ont appris avec toutes ces images-là. Mais nous, maintenant, dans l'Ancien Testament, il nous est révélé tellement plus. On a tellement plus de révélés. La doctrine est établie. On est fondé sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, on a des mystères, comme il est dit, des choses que les prophètes ont voulu connaître, puis il leur a été dit que ce n'était pas pour eux qu'ils ont écrit ces choses-là, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, maintenant qu'on est parvenu à la fin des temps, nous, on a ces révélations-là, comme on regarde maintenant les mystères qui nous sont révélés. Dans l'Ancien Testament, on ne comprenait pas ces mystères-là. Mais maintenant qu'on les voit bien énoncés, clairement, distinctement dans le Nouveau Testament, maintenant, nous, on a le privilège d'aller dans l'Ancien Testament, puis de voir les illustrations de ces vérités-là fondamentales qui sont dans le Nouveau Testament. Puis ça nous aide à les comprendre. C'est pour ça qu'en regardant ça, quand on retourne dans l'Ancien Testament, ça nous aide. Puis merci Seigneur pour vraiment ce privilège-là qu'on a maintenant de pouvoir comprendre ces choses-là dans l'Ancien Testament. Mais il faut toujours garder en vue que tout ce qu'on peut dire dans les types, il faut que ça soit parfaitement en accord avec ce qui a été révélé dans le Nouveau Testament. Donc, on va regarder maintenant, on va aller peut-être dans Genèse chapitre 2, on va commencer avec la relation d'Adam et avec sa femme Ève que Dieu lui a donnée. Eh bien, ça représente la part que le Père a dans cette relation-là, c'est de pourvoir. Dieu avait en vue de pourvoir une épouse pour son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu avait donné le règne à l'homme. Dieu a créé l'homme. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, nous disent qu'on est arrivé par un accident, un Big Bang ou n'importe quoi d'autre. Mais vraiment, on voit, nous, par la foi, on sait que ces choses-là ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui les a pensées, c'est Dieu qui a fait l'ordre ici. Il a créé l'homme, puis il l'a mis en autorité sur la création. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Puis l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, on voit que Dieu, ici, a créé, il a fait toute la création, les animaux, puis il a créé l'homme et il l'a mis en autorité sur la création. Encore une chose aujourd'hui qui est contredit dans la culture dans laquelle on vit. On vit où, dans un temps où les gens donnent plus d'importance aux animaux qu'aux hommes. Puis on voit ça, là, les gens mettent plus d'importance sur les animaux, puis même on dit que l'homme n'aurait jamais dû dominer sur les animaux. Mais imaginez-vous si c'est les animaux qui avaient dominé sur nous autres. Mais c'est que vraiment, l'homme aujourd'hui rejette vraiment le plan de Dieu parce que Dieu a créé l'homme distinct des animaux. Les animaux, il leur a donné un instinct, mais l'homme, il dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance avec une intelligence pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir dominer, parce que imaginez si c'est les animaux qui domineraient sur nous autres. Ça ne marcherait pas, là. Mais c'est tout le désordre que l'homme veut vraiment contester l'ordre que Dieu a établi. Puis même, j'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était à cause de la Bible que l'homme avait pensé qu'il était en autorité sur les animaux. Ben oui, c'est à cause de la Bible, mais c'est l'ordre que Dieu a établi. Vous savez, c'est lui qui décidait, c'est lui qui a décidé comment ça va fonctionner, puis c'est lui qui a délégué l'autorité. C'est sûr qu'on doit en prendre soin de la création de Dieu, mais Dieu a donné l'autorité à l'homme pour dominer sur la création. Puis Dieu y avait donné, il avait assujetti toute la création à l'homme, mais dans la soumission à celui qui lui a assujetti toute chose. Voyez-vous, verset 16 et 17, dit l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, s'il a donné un ordre, Dieu était en autorité sur l'homme. Il l'a mis en autorité sur sa création, mais une autorité déléguée, puis une autorité qui est sous l'autorité de Dieu lui-même. Parce que dans cette création-là, Dieu a donné cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voyez-vous ici, ça c'est ce qu'on appelle quand l'homme a désobéi à cet ordre-là, il a usurpé l'autorité qui était au-dessus de lui. Même si lui avait une autorité sur la création, il devait être en soumission à celui qui lui avait placé dans cette soumission, dans cette autorité-là sur sa création. Puis l'homme a failli, il a contesté l'autorité de Dieu, il a agi à sa propre, il a fait cette propre décision-là de désobéir à Dieu en étant tenté par Satan. On voit que le Seigneur Jésus, dans 1 Corinthiens 15, au verset 27-28, dit: Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Donc, Dieu avait mis l'homme en autorité sur la création, mais ce n'était pas sur Dieu, il n'était pas en autorité sur Dieu. Dieu restait l'autorité absolue au-dessus. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, voyez-vous ici, là, l'homme était mis en autorité. Mais le Seigneur Jésus vient réparer ce que l'homme a usurpé l'autorité qui était au-dessus de lui. Mais le Seigneur Jésus, lui, il va ramener dans la soumission à lui-même, mais lui-même étant soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, le Seigneur Jésus ramène l'ordre qui a été brisé. L'ordre qui a été brisé, on vit dans une société aujourd'hui où l'ordre a été brisé. De là, tout, puis on n'a pas besoin d'aller loin, là. Juste écouter les nouvelles, comme on parlait au début, là, les guerres, tous les désordres, la souffrance, tout à cause du fait qu'on a rejeté l'ordre que Dieu avait établi. On a contesté l'autorité de Dieu, Puis c'est tout à cause de ça. Tout ce qu'on vit de problèmes sur la terre, puis depuis que le péché est entré dans le monde, jusqu'à ce que le péché soit enlevé complètement, puis qu'on soit, nous, transportés dans la présence de Dieu où il n'y aura plus de péché, là. Mais tout ce qui s'est passé de problèmes, de conséquences, c'est sûr qu'on est vite à blâmer Dieu pour ça. Hein? Si un Dieu d'amour, pourquoi qu'il laisse ces choses-là? C'est tout par le péché, comme il est dit. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Tout ça, là, c'est tout. Dieu avait créé l'homme parfait, mais il a cherché bien des détours. Donc, mais le Seigneur Jésus, lui, il va tout ramener. Il va ramener tout à l'ordre que Dieu a établi, mais quand il va avoir, tout va lui avoir été soumis, mais lui-même, il va être soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Ça, on va tomber dans l'ordre que Dieu avait établi. Mais on voit ici que dans cette relation-là entre Adam et Ève, dans la relation de mariage, ici, c'est la femme qui est présentée à l'homme. C'est Dieu qui a présenté la femme à l'homme. Donc, c'est sûr que si Adam, le Seigneur avait dit à Adam, il faut que tu te maries, mais il n'y avait pas de femme. Mais c'est Dieu qui a pourvu une femme. Puis il l'a amené vers l'homme, il l'a présenté à l'homme. Au verset 23 de Genèse 2, on voit ici quand Dieu lui a présenté la femme, comment qu'il l'a formée, on va voir aussi. Mais au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voyez-vous la réaction de l'homme quand il a vu cette femme-là que Dieu lui avait pourvue? Eh bien, il l'a reconnu, était différent de tout le reste de la création, parce qu'on a vu que l'homme avait donné des noms à tous les animaux de la création, mais pour lui, il n'avait pas trouvé une aide semblable à lui. Donc, il y a une grande distinction entre la femme, elle vient ici au même niveau que l'homme, parce qu'elle vient de l'homme, on va voir ça. Elle est son égale. Elle est différente du reste de la création, elle est distincte du reste de la création, comme Dieu a dit qu'il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais on sait dans le chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, l'acte de création était au début, Dieu a créé l'homme et la femme, mais il n'y avait pas encore la femme était dans l'homme, il devait la sortir de l'homme, il devait... Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas par hasard. C'est toutes des images, des choses qui nous font comprendre comment l'ordre que Dieu a établi. Donc, il a pris cette femme-là. Elle est différente de toute la création. Elle est égale. Elle vient du côté de l'homme. Elle était prise du côté de l'homme. Puis, elle provient de lui-même, comme dans Éphésiens 5, verset, si on retourne dans Éphésiens 5, verset 28 à 30, on voit encore Éphésiens 5. Verset 28, il dit ici, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, voyez-vous ici, on est membre du corps de Christ, comme la femme était membre du corps de l'homme, parce qu'elle était sortie de l'homme, elle provient de lui. Puis comme nous, on provient du Seigneur Jésus-Christ aussi. Puis maintenant, cet homme-là, il sera plus complet sans sa femme. Parce que cette femme-là est sortie de lui-même. Donc, il ne sera plus complet sans elle. C'est pour ça qu'il nous dit que les deux deviendront une seule chair. Puis, on continue. Maintenant, le temps est arrivé. On va s'arrêter là. On n'a pas fini encore avec la relation d'Adam avec sa femme. La première relation qu'on voit de mariage dans l'Écriture qui nous représente la part du Père qui va pourvoir une épouse pour son fils. Donc, c'est Dieu qui a pourvu une femme pour Adam quand il n'en avait pas. C'est lui qui lui en a pourvu une. Eh bien, maintenant, il l'amène vers l'homme pour l'unir à lui. On continuera la semaine prochaine, Seigneur voulant. Comme on a dit, on va avoir une réunion lundi soir prochain, qui est le lundi de Pâques. La plupart ont dit qu'ils étaient prêts, ils seraient disponibles pour qu'on puisse faire cette étude-là lundi soir prochain. Donc, je m'arrête là, puis je vous donne la parole pour 5 minutes qui restent. Et vous pouvez prendre votre micro. Puis, si vous avez des commentaires ou des questions, on va pouvoir regarder ça ensemble.
Il y aura deux questions, Gérald.
OK.
Encore une fois, est-ce qu'on peut demander à une sœur si elle a un cantique qu'elle aimerait chanter?
Bien, c'est ça, quand ça, c'est de conduire, de choisir les cantiques, c'est de conduire l'assemblée dans le chant. Puis c'est ça que le Seigneur nous demande, qu'elle soit en soumission.
Mais là, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut demander à une sœur de chanter, de chanter avec nous?
Ben, c'est parce que si elle choisit le cantique
Oui, ah.
que toute l'Église va chanter, eh bien,
OK.
c'est de conduire.
Ah
C'est de
oui.
conduire dans le chant qu'on va apporter. Parce que en choisissant un chant, on dirige l'assemblée dans le sujet ou le thème qu'on va, en chantant, ça nous dirige.
OK,
Mais
merci.
quand on chante, c'est pas dirigé. Mais de choisir les cantiques, oui, c'est dirigé.
OK, c'est bon. La deuxième question, je ne sais pas si on pourrait regarder deux versets dans 1 Corinthiens, chapitre 7.
OK.
2 Corinthiens, non, 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 13 et 14.
OK.
Alors, je le lis. Ça dit, si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point.
Ouais.
Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Alors, ma question est de savoir, j'aimerais savoir comment on peut comprendre ce verset-là. Comme il se doit.
C'est ça quand il dit, c'est ça quand il dit ici que le mari non-croyant est sanctifié par la femme, ici, par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Sanctifié, ça veut dire mise à part. C'est ça que ça veut dire, être sanctifié, c'est d'être mise à part pour un but. Parce qu'on est séparé de quelque chose pour être uni à quelque chose. Donc ici, c'est qu'ils sont sanctifiés en rapport avec l'Évangile. Parce que, étant marié, le mari qui est marié à une femme croyante, eh bien, il est sanctifié, il est mis à part quant à l'Évangile, comme les enfants, ils grandissent avec l'influence de l'Évangile dans la maison à cause, que ce soit le mari qui soit croyant ou à cause de la femme qui est croyante. Puis, il y a une exposition à l'Évangile. Puis, c'est ça que ça veut dire qu'il est sanctifié, il est mis à part par rapport à l'Évangile.
Je crois bien qu'ils sont, si le mari vit sa vie comme il se doit, bien sa femme est dans la bénédiction pour ses enfants aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est sûr. Ben oui, si on vit dans le rôle que Dieu nous a donné, mais ici, il parle de quelqu'un, d'une femme qui est mariée à un mari non-croyant ou un mari qui est un mari croyant qui est marié à une femme non-croyante. Donc, ils sont mis à part dans un sens par rapport à l'Évangile parce qu'ils sont en contact avec l'Évangile. Ils vivent avec quelqu'un qui représente l'Évangile tout près d'eux, là, parce que ils deviennent une seule chair. Qu'ils voient vraiment la réalité de l'Évangile vécu, là. Comme Pierre nous dit, que la femme, elle va gagner son mari sans parole, par sa conduite pure et chaste.
Est-ce que tu peux lire le verset 16 en même temps?
Thèse?
Oui.
Oui. Qu'en sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? C'est ça, c'est en rapport. Est-ce que tu sais, puis justement, il y a une sœur, là, elle est mourante présentement. Elle a souffert beaucoup. Elle a été malade, ça fait des années. Puis, son grand fardeau à elle, c'est de voir son mari être sauvé. Puis, il n'est pas sauvé encore. Fait qu'on prie pour qu'il soit sauvé. Mais s'il n'est pas sauvé, il va être tellement redevable devant Dieu parce qu'il a vu sa femme vivre l'Évangile devant lui pendant toutes ces années-là. Donc, mais il dit, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ou mari, si tu sauveras ta femme? Donc, on ne sait pas. C'est pour ça que Pierre dit qu'elle doit avoir une conduite chaste et pure devant lui, parce que sans parole, elle peut le gagner. Puis c'est ça qu'on prie pour que cet homme-là, même s'il est avancé en âge, qu'il puisse être sauvé. Puis peut-être que ça va être dans la mort de sa femme qu'il va réaliser son besoin de l'Évangile. Puis le fait qu'elle a prié pour lui à travers toutes les années, là, un désir profond de voir son mari sauvé.
OK. Merci, Gérald.
OK.
Je pense qu'aussi, il pourrait juste rajouter une chose. Le fait qu'il dit si elle a un mari ou vice-versa, et il dit qu'elle ne le répudie point. Autrement dit, si elle l'abandonne, c'est sûr, certain que l'influence ne sera plus là. Mais en étant là, ben, c'est justement Dieu peut se servir d'elle ou de lui pour amener l'autre au salut.
Exactement.
Merci, Raymond.
Est-ce que je peux lire un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 11? 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 5, c'est un verset qui est, comment dire, qui est souvent mal compris. C'est mentionné que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Il y en a qui prennent ce verset-là en pensant que la femme peut prophétiser ou prier en public. Mais il faut comprendre que dans le contexte de 1 Corinthiens, il y a des anomalies, il y a des désobéissances. Les deux désobéissances en question, c'était que il y a des femmes qui prophétisaient, puis il y a des femmes qui portaient pas le voile non plus. C'était les deux désobéissances principales qu'il y avait. Donc, il dit pas ici que la femme peut prophétiser, mais c'est un fait qui se passait, une désobéissance, une anomalie qui se passait chez les Corinthiens, que la femme ne portait pas de voile et qu'elle prophétisait aussi.
Dans l'Assemblée.
On dit aussi que la femme, au contraire, qui prie, je ne sais pas s'il parle d'une femme qui prie en public, mais une femme qui prie dans le silence, elle prie, elle peut prier. Dieu veut qu'elle prie dans le silence. J'aimerais
C'est
aussi
ça.
aller dans la première épître à Timothée qu'on a lu aussi, où on a le principe du fait que la femme ne doit pas prendre d'autorité sur l'homme. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ça ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, ici, on a le principe que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Comme on l'a mentionné tantôt avec les cantiques, si c'est la femme demande un cantique, là, elle va diriger l'assemblée, puis va prendre l'autorité sur l'homme, c'est ce que Dieu veut pas. Puis, quand la femme prie en public, aussi, elle prend de l'autorité sur l'homme parce que l'homme qui prie en public devient la bouche de l'assemblée qui s'adresse à Dieu. Et c'est l'homme qui a l'autorité d'être la bouche de l'assemblée, mais la femme ne peut pas être la bouche de l'assemblée. Dieu ne lui donne pas cette autorité-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport au rôle de la femme.
Ouais, c'est ça, parce que dans 1 Corinthiens 11, il dit pas que c'est correct. Il approuve pas puis c'est comme on le voit dans d'autres choses, dans l'Épître aux Corinthiens, il gère une chose à la fois. Puis, comme à un moment donné, il parle d'avoir des procès entre frères, puis il dit, c'est devant les gens du dehors que vous allez. Mais il dit, puis après ça, il leur dit qu'on doit pas, on doit supporter, là, on doit même supporter des injustices plutôt que d'aller en contestation avec des frères et des sœurs. Puis aussi, par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, dans le chapitre 7, on dirait que c'est comme s'il approuvait que dans le chapitre 8, c'est-à-dire c'est comme s'il approuvait qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais dans le chapitre 10, il dit non, qu'on ne peut pas manger des. Dans la première instance, il parle d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais ensuite de ça, il nous dit qu'on ne peut pas avoir de communion avec les idoles. Parce que les idoles, ça n'existe pas, mais c'est vraiment un culte aux démons quand on fait l'idolâtrie. Fait que c'est ça, il donne pas l'autorité ici, il approuve pas ce qui se passait dans 1 Corinthiens 11, mais il gère une chose à la fois. Puis dans 1 Corinthiens 14, là, il dit que c'est clair que la femme doit se taire. Puis aussi dans 1 Timothée 2, eh bien, il nous dit que, attendez un petit peu, on va aller dans 1 Timothée 2, verset Dans tout le 1 Timothée 2, là, il parle des hommes. Il y a le mot homme qui est souvent là, mais c'est le mot anthropos qui veut dire un homme dans le sens générique, que ce soit un homme ou une femme. Mais quand il arrive au verset 9, au verset 8, il dit: Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, encore là, il dit que c'est les hommes qui doivent prier. Puis le mot homme ici, c'est aner qui veut dire un mâle, qui est distinct d'une femme. C'est pas, c'est un mâle, c'est quelqu'un, c'est un homme qui doit prier ici en tout lieu en élevant des mains pures. Donc, il fait la distinction, il a changé le mot pour vraiment prendre un mot qui décrit un mâle. Ça peut pas être une femme. C'est sûr que toutes ces choses-là, on conteste ça aujourd'hui à cause de la culture dans laquelle on vit, mais ce qui doit avoir l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Puis, même si ça ne plaît pas, il y a une pression qui est mise que on ne doit pas céder à la pression du monde dans l'Église. Reste que le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église. Puis c'est lui qui a le dernier mot. Puis c'est pas, mais c'est vraiment de se soumettre au monde, d'aller contre l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Puis c'est un beau rôle, là. Le rôle de la femme, c'est un super de beau rôle que Dieu lui a donné. Mais si on commence à dire que discréditer ce que la parole de Dieu dit, bien, on se prive de quelque chose de vraiment merveilleux.
Juste un petit point aussi, il ne faut pas oublier que Satan nous fait toujours regarder à ce qu'on n'a pas.
Ouais. Il nous fait manquer ce qu'on a. Ça, le temps est passé, on a dépassé un peu le temps, mais en tout cas, peut-être qu'on va terminer par un mot de prière. Puis ceux qui doivent partir pourront partir. S'il y en a qui veulent continuer de discuter, on peut continuer à discuter, à regarder ces choses-là. Mais on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Et notre Dieu, on sait qu'on vit dans un siècle où on conteste toute autorité, Seigneur. Mais on veut nous se soumettre, étant rachetés par le sang précieux de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On veut se soumettre entièrement à toi, Seigneur. Puis on sait que c'est toi qui as donné le Seigneur Jésus comme chef suprême de l'Église, qui est la tête du corps. Et Seigneur, on ne veut pas se laisser influencer par la culture dans laquelle, l'époque dans laquelle on vit, mais on veut vraiment, Seigneur, que c'est ta parole, c'est ton autorité qu'on veut respecter puis obéir. On te remercie pour ce temps passé ensemble ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.